Fort intérieur avec Philippe Forest, une émission préparée avec la collaboration de Claire Poinsignon, Jean-Sébastien Rago et Anne Franchini pour la réalisation. Pensez à une forêt tropicale, bruissante de vie qui viennent du fond des âges, avec des pièges qui appellent des mortes innocentes, des clairières qui accueillent l'amour, des ombres, du soleil, de la tempête, l'appel du vide, la conscience du mystère. Vous me direz qu'il s'agit là de la matière même de la vie, certes. Mais force est de constater que peu d'écrivains, aujourd'hui, intègrent dans leurs livres l'histoire, on va lui mettre un grand H, n'est-ce pas, on va pas reculer, l'histoire et ses falsifications, le deuil, l'amour, qu'il soit à la fois éros ou bien sentiment de tendresse, la passion pour le ciel physique, l'autre ciel étant d'ailleurs le grand absent de vos ouvrages, de la plupart de vos livres, ou bien le thème de la paternité. Telles sont, dit rapidement Philippe Forest, les richesses de votre dernier opus, Le siècle des nuages, publié chez Gallimard en cette rentrée 2010. Et il se trouve que, à mon sens, c'est un des romans les plus saisissants, justement, de cette rentrée littéraire, qui, par ailleurs, me semble fort riche. Une vingtaine d'ouvrages à votre actif, dont quatre romans, et là je mets des guillemets au mot « roman », on verra pourquoi. Alors, parmi ces romans, citons bien évidemment « L'enfant éternel », qui est la première version de la perte de votre fille de 4 ans, ou bien « Le nouvel amour », dans lequel le « et » est remplacé par « ou bien », avec les difficultés que cela cause. Mais c'est grâce à cela qu'il y a un roman, n'est-ce pas? Alors, vous avez aussi, dans vos essais, traité de votre dilection pour la littérature japonaise, de votre interrogation sur le genre autobiographique, nous y reviendrons, ou bien de tel quel et de son pape que vous avez admiré, qui vous a aidé dans vos débuts. Donc commençons, si vous le voulez bien, Philippe Forest, par les années de formation, ce qui ont été pour vous des rencontres décisives, des lectures décisives. D'abord, commençons par le tableau familial. Vous étiez le dernier d'une famille de 5 enfants.
L'avant-dernier.
L'avant-dernier, oui, 5 enfants. Voilà. Donc, il y a un sens familial quand même qui est assez fort dans vos gènes, dans votre origine.
Sans doute, encore que je n'en ai pas forcément conscience. C'était une famille assez large parce qu'aux frères et sœurs s'ajoutaient les enfants des frères et sœurs, les neveux et nièces. Donc, ça faisait une sorte de continuité avec une grande différence d'âge entre les frères et les sœurs et une faible différence d'âge entre les plus jeunes des frères, à savoir moi notamment, et nos neveux et nièces.
Et vous avez été heureux, épanoui au sein de cette communauté?
Oui, oui. Je ne sais pas si c'est bien pour un romancier ou pas, mais j'ai eu assez peu de conflits avec ma famille. J'ai eu effectivement une enfance heureuse, une enfance sans conflit. Et donc tout ce qui relève du roman familial avec sa dramaturgie parfois un peu hystérique, la rivalité avec le père, la mère, entre les frères, avec les sœurs, tout ça m'est un peu étranger. J'ai plutôt une image assez pacifiée de la cellule, comme on dit, familiale.
Parce qu'on sent quand même des angoisses qui sortent dans vos ouvrages. Donc, est-ce un effet littéraire ou est-ce qu'il s'agit là vraiment d'une expérience existentielle qui serait postérieure à l'enfance?
Je pense que l'angoisse essentielle, c'est celle qui a surgi dans ma vie avec la mort de ma fille, dont je parle dans L'Enfant éternel et dans tous les livres qui ont suivi. Mais peut-être cette angoisse est-elle forte parce qu'elle se déploie sur un fond de mélancolie, mais je suis sans doute mal placé moi-même pour apprécier ma propre psychologie. C'est vrai que j'ai un tempérament, sinon mélancolique, du moins assez contemplatif et méditatif.
Quelles étaient les lectures, ou quelles ont été les lectures qui vous ont rendu écrivain, qui ont fait que vous êtes devenu celui que vous êtes ?
Oh bah, j'ai toujours été un grand lecteur dès l'enfance. Hein. J'étais passionné de mythologie grecque, donc je lisais les classiques, l'Iliade, l'Odyssée, etc. Et puis aussi, je lisais beaucoup une petite collection qui, je crois, malheureusement n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait la collection Contes et Légendes, qui permettait comme ça de disposer pour les jeunes lecteurs, les enfants, de tout un panorama des contes issus des mythologies du monde entier, mais également du folklore. Donc ma première expérience de lecteur, ça a été celle-là. Et puis plus tard, j'ai découvert la littérature du XXe siècle, la littérature contemporaine, Sartre, Camus, la philosophie. Et puis plus tard encore, quand j'ai commencé à faire des études de lettres, je me suis intéressé beaucoup aux littératures d'avant-garde, le surréalisme, et puis effectivement tel quel, puisque j'ai consacré un certain nombre de travaux universitaires, disons à l'avant-garde littéraire des années 60 et 70.
Vous avez beaucoup écrit sur la littérature.
Oui,
il n'y a pas d'incompatibilité chez vous entre le regard sur la littérature et l'acte de créer de la littérature.
Ça me semble important d'alterner les deux choses, c'est-à-dire je pense qu'on ne peut pas être en même temps critique et créateur. En revanche, l'être alternativement me semble être une bonne chose. Je doute qu'on puisse être vraiment écrivain si on n'est pas d'abord un lecteur. Mais tous mes premiers livres étaient effectivement des livres, même parfois des livres de vulgarisation, des livres scolaires, des livres universitaires sur la littérature. C'est assez tardivement que je suis passé au roman avec L'Enfant éternel. Donc j'avais déjà 34 ans à l'époque.
Ah oui, donc auparavant, vous n'étiez pas sûr d'aborder la fiction. Enfin, la fiction ou le mélange de fiction et de récits vécus.
Non, il a vraiment fallu cet événement à la fois fondateur et destructeur pour que je me sente non seulement autorisé, mais requis en quelque sorte pour écrire un roman. Je pense que, enfin je ne veux pas généraliser, mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'on ne doit écrire de littérature que si on est vraiment dans la nécessité impérative et absolue de le faire.
Il y a des écrivains qui se sentent écrivains dès l'âge de 7-8 ans.
Oui.
Même, enfin, peut-être que la nécessité est venue dans une expérience très enfantine ou bien alors d'un acte de la volonté. Mais si je vous entends bien, vous considérez que c'est mieux lorsque cela arrive par un événement extérieur que lorsqu'il s'agit d'un choix que la volonté dicterait.
Pas nécessairement. Là encore, je ne veux pas poser des règles qui vaudraient pour d'autres que pour moi. Mais en ce qui me concerne, sinon un événement, du moins, il doit y avoir une nécessité, je crois. Et pour moi, la nécessité est née de l'événement, ça c'est sûr.
Donc auparavant, vous considériez vraiment plutôt comme un critique qui allait devenir un universitaire, ce que vous êtes toujours aujourd'hui, d'ailleurs, à la faculté de Nantes. Donc c'était plutôt cela, sans employer des grands mots, mais quand vous trasquiez l'avenir devant vous, votre destin était plutôt dans l'observation et le goût de la littérature que dans la création.
Oui, je me voyais comme un lecteur plutôt que comme un auteur.
Dès le départ, vous avez été attiré par les littératures étrangères.
Oui, aussi, oui, parce que j'ai eu le goût des voyages en raison de mon environnement familial. Mais c'est-à-dire j'ai vécu longtemps en Grande-Bretagne. J'ai été 7 ans professeur dans différentes universités britanniques. Donc ça m'a donné un contact assez durable et assez fort avec les littératures de langue anglaise, et littérature écossaise, littérature irlandaise. Et puis par la suite, j'ai découvert la littérature japonaise aussi. Mmh. Et ce sont pour moi les deux grandes littératures étrangères que je connais un peu.
La rencontre avec le Japon a été fondamentale. Elle se situe aussi en contrepoint par rapport à la disparition de cette fillette de 4 ans. C'était pour trouver un autre horizon.
Oui, c'est ce que je raconte dans mon troisième roman, Sari Nagara. Mmh. C'est-à-dire avec ma femme, nous avons quitté la France pour nous installer 4 mois au Japon, à Kyoto, dans un endroit qui est assez connu maintenant puisqu'il reçoit beaucoup d'artistes et d'écrivains français, qui est la Villa Kujoyama. Et c'est vrai qu'il y avait ce désir de se déplacer de l'autre côté du monde.
Avec l'espoir d'oublier ?
Sans doute pas, parce que je crois pas qu'on ait eu le désir d'oublier, mais le désir de déplacer le chagrin dans l'espace et dans le temps pour revenir d'une certaine manière à la vie, oui, sans doute, mais sans oublier. Non.
Et la chimie a bien fonctionné. Je veux dire, ce déplacement vous a permis de mieux vivre ou de mieux regarder les choses ?
Oui, en un sens, oui, ça a été une formidable respiration pour nous deux. Et je crois que ça a été une ouverture assez magnifique au monde à travers la découverte du Japon et de sa culture.
En fait, vous auriez pu découvrir une autre culture étrangère ou bien maintenant que vous avez le recul suffisant, Vous dites que c'était vraiment le Japon qui vous appelait.
Ce qui m'appelait dans le Japon, notamment, c'était la découverte que j'ai faite en 1995 de l'œuvre de Hoe Kenzaburo, l'écrivain japonais qui avait obtenu quelques années auparavant le prix Nobel. Et j'ai vraiment été frappé par la lecture de ses œuvres parce que toute l'œuvre de Hoe est construite autour d'un événement traumatique qui est en fait la naissance de son fils handicapé mental. Et j'avais été très frappé par la manière dont Hoe réussit à faire de cet événement tout à fait pathétique la base d'une vraie œuvre romanesque qui n'est absolument pas dans une sorte de sentimentalité un peu mièvre, mais qui est vraiment en relation avec ce que la littérature, le roman moderne peuvent produire de plus pensé, de plus abouti. Donc je crois que le livre qui a été décisif pour moi, ou l'œuvre qui a été décisive pour moi, à ce moment-là, ça a été celle de Hoe, parce qu'elle me montrait qu'il y avait une autre voie pour le roman que celle que je connaissais et que je pouvais, à mes risques et périls, et à mon tour, essayer de m'engager dans cette direction-là.
Et on peut donc dire qu'il a servi en quelque sorte de modèle. Oui. Pour la façon dont ensuite vous allez vous servir, le verbe est impropre, pardonnez-moi, mais ensuite vous allez intégrer la mort de cette fille dans chacun de vos ouvrages.
Oui, on peut dire
ça. Vous avez trouvé le moyen, peut-être grâce à ce livre japonais, d'être à la fois dans la fiction et dans la réalité.
Oui, absolument. Ça a été un modèle pour moi et ça reste aujourd'hui un modèle pour moi. Je continue à penser que c'est l'un des grands écrivains d'aujourd'hui. Très célèbre en raison du Nobel, mais en même temps, je crois, assez trop pelu.
Cela dit, dans la littérature japonaise, vous avez fait d'autres choix aussi.
Oui.
Oui, notamment Soseki, par exemple,
oui.
Que vous citez souvent. Oui.
Oui.
Ou même Mishima, d'ailleurs. Et pourtant, son univers semble assez éloigné du vôtre.
Oui, et Mishima et Hoe étaient un peu les deux frères ennemis de la littérature japonaise au début des années 60. Mais j'ai une grande admiration pour Mishima, pour toute l'œuvre de Mishima, même si c'est vrai que sur le terrain idéologique et même érotique, je me sens assez éloigné de lui. Soseki, c'est un très grand écrivain. La Porte est un roman absolument magnifique. Et dans Sarin Lagara, j'évoquais Soseki, puisque lui aussi, il a fait l'expérience du deuil parental. Et ça m'intéressait de voir comment il s'y était pris dans ses livres pour exprimer tout cela.
Beaucoup s'intéressent au Japon pour d'autres raisons que les raisons littéraires, que ce soit pour les arts martiaux, que ce soit pour la spiritualité, du bouddhisme, du shinto, ou que ce soit pour le raffinement. Les textes de vous que j'ai lus, Philippe Forest, concernant le Japon, tournent presque tous autour de la littérature. C'est vraiment par là que vous avez aimé le Japon.
Oui, absolument. J'aime aussi le Japon pour des raisons moins honorables, disons, qui relèvent du pur exotisme. La nourriture japonaise, les paysages japonais, etc. Tout ça est quelque chose qui, d'une certaine manière, m'enchante aussi.
Ah bah c'est honorable.
Oui, oui.
D'aimer sur l'extraordinaire raffinement d'un plat japonais.
Oui, absolument. Mais malgré tout, ça a été la littérature qui, pour moi, a été le départ. Et d'abord, le roman japonais du XXe siècle. Et par la suite, j'ai lu davantage. Et donc, je me suis intéressé à la poésie japonaise. Au théâtre japonais, au no, et à toutes sortes d'autres choses qui relèvent de la culture japonaise. Mais mon point de départ a été, et mon point d'ancrage reste, le roman japonais.
Le roman, c'est ça. Et vous parlez bien du haïku également.
Oui, j'en parle, oui.
Vous avez bien senti tout ce qu'il peut y avoir de non-dit, mais sur un plan quasi spirituel, ou cette manière de vouloir saisir l'invisible, ou en tout cas la réalité derrière le réel, qui est la démarche même du haïku. Puisqu'apparemment, on est uniquement dans le réel, apparemment banal. Et en fait, ce qui est dit est beaucoup plus profond qu'on ne peut l'imaginer d'après l'apparence.
Oui, ça m'a beaucoup intéressé. Et notamment, je ne sais plus exactement dans quel texte j'en parle, mais j'essaie de faire une comparaison entre le haïku et ce que Joyce appelait l'épiphanie, en montrant comment il me semble que, malgré les différences énormes de culture qui existent entre le Japon et l'Occident, il y a malgré tout quelque chose de comparable et qui renvoie à ce que vous venez d'expliquer dans le fonctionnement du haïku et dans le fonctionnement de l'épiphanie. Et notamment, ce qui m'a intéressé et qui, me semble-t-il, est un peu négligé, sinon par les spécialistes, c'est la manière dont, dans la littérature japonaise, le poème s'insère dans la prose. Notamment, le haïku peut s'insérer dans le récit de voyage, comme chez Basho. Il y a une sorte d'alternance comme ça, de jeu entre prose et poésie, qui, pour moi, a un sens précis dans ma propre pratique de romancier.
Alors, en évoquant Joyce, vous évoquez indirectement, mais on peut l'approfondir, un point qui est important et qui se trouve dans un de vos livres que j'aime beaucoup, qui s'intitule « La beauté du contresens et autres essais sur la littérature japonaise » que vous avez publié aux éditions Cécile Defaux. parce que là, vous développez l'idée que la littérature japonaise, on pense qu'elle est très éloignée de nous pour des raisons exotiques, effectivement, les paysages, les raisons historiques, les coutumes, etc., etc., mais que toute littérature est étrangère. Et qu'en fait, si on analyse bien la littérature de notre propre tradition, littérature de langue française, elle est sur un certain plan presque aussi étrangère que la littérature japonaise. C'est une idée originale et ce serait bien que vous la développiez parce qu'on ne la rencontre pas très souvent.
Je le crois fondamentalement. Je suis parti, et c'est ce qui m'a donné le titre de ce livre, d'une citation de Proust dans Le Contre Sainte-Beuve, où Proust écrit que tous les beaux livres sont écrits dans une langue étrangère. Donc tous les beaux livres, ça veut dire même ceux qu'on croit écrits dans notre propre langue, dans notre langue maternelle. Et il ajoute aussi, et ça c'est quelque chose qui était moins souligné, je crois, avant que je le fasse, que du coup on commet nécessairement des contresens lorsqu'on lit un livre. Mais ajoute Proust, peu importe les contresens que l'on commet, parce que dans un beau livre, tous les contresens qu'on fait sont beaux. Et donc je développe modestement une petite théorie de la lecture et de l'acte critique en disant qu'il faut prendre le parti du contresens, c'est-à-dire accepter le risque de l'erreur, parce que cette erreur, elle peut être source de beauté et même paradoxalement de vérité. Alors par exemple, moi je connais... Enfin, j'ai beaucoup lu de littérature japonaise, mais en traduction, parce que malheureusement, mes efforts faits pour apprendre la langue ont été assez vite vains. Et donc, je peux un peu baragouiner le japonais, mais je suis incapable de le lire. Et donc, j'ai un rapport tout à fait étranger à la littérature japonaise. Et malgré tout, je m'y intéresse parce que je crois que même les erreurs donc, que je commets en lisant cette littérature, elles peuvent ouvrir en quelque sorte à une expérience qui est une expérience universelle. Et effectivement, oui, je crois que nous sommes dans un même rapport à notre propre littérature. Finalement, je ne suis pas sûr de mieux comprendre Racine que Zéami, je ne suis pas sûr de mieux comprendre Rimbaud que Bachot. Et je crois que c'est cette expérience de l'étrangeté qui est l'expérience fondamentale du lecteur, quelle que soit la littérature à laquelle il se confronte.
Et on pourrait dire aussi que plus le texte est riche, plus il y a de possibilités de contresens.
Oui.
Voilà. Et qu'un texte plat ou dicté uniquement par l'intellect donne, dès la première lecture, la réponse. Tandis que celui qui reste justement, comme toute l'œuvre de Proust, bien évidemment, qui reste tout le temps dans la possibilité d'être éclairé de telle ou telle manière permet justement ce contresens fructueux.
Oui, donc on aboutit à un paradoxe, mais je crois qu'il est fondamentalement juste. Plus on se trompe sur un texte, plus ce texte nous dit la vérité d'une certaine manière.
Et plus il est riche.
Et plus il est riche, oui.
Alors dans ce livre, puisque oui, il a été convié, il n'y a pas forcément de plan préétabli, cette beauté du contresens, il y a aussi une idée qui est importante et qui va mieux nous faire comprendre pourquoi justement dans chacun de vos romans, on va retrouver un jeu qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Philippe Forest. Et pourtant, on est quand même dans l'univers romanesque. Donc, il est important que vous nous expliquiez ce qu'est votre théorie de l'autobiographie par rapport notamment à cette autofiction qui se développe beaucoup dans la littérature française d'aujourd'hui, avec laquelle vous n'êtes pas forcément d'accord.
Non, pas entièrement d'accord. Et ce désaccord, je l'exprime justement par le détour de la littérature japonaise. Je peux l'expliquer, enfin je peux en tout cas essayer de l'expliquer brièvement. Il y a quelque chose dans la littérature japonaise du XXe siècle qu'on appelle le watakushi shosetsu. Et ça veut dire, shosetsu ça veut dire roman, et watakushi c'est une des nombreuses manières dont dispose le japonais pour dire je. Donc watakushi shosetsu, on peut traduire ça par roman du jeu, tout simplement. Et c'est une histoire vraiment très, très intéressante et très troublante en fait. Lorsque les Japonais ont découvert la littérature occidentale à la fin du 19e siècle, quand le pays s'est réouvert à l'Occident, ils ont traduit de manière massive et désordonnée les grands classiques des littératures d'Europe. Et ils ont été convaincus que la grande idée qui dominait la littérature européenne, c'était l'idée naturaliste. Mais ils se sont complètement mépris, ces auteurs japonais, sur le sens du naturalisme. Ils ont confondu en quelque sorte le naturalisme de Zola avec ce qu'on pourrait appeler le romantisme, si on veut, qui se trouvait à l'œuvre chez Rousseau et plus particulièrement dans les Confessions de Rousseau. Donc dans leur désir d'imiter la littérature occidentale, ils se sont mis à faire des sortes de... d'imitation, en quelque sorte, des confessions de Rousseau, mais sur une base qui était totalement différente, bien sûr, de celle dont nous disposions en Europe. Et du coup, on ressurgit dans ces romans autobiographiques japonais, ces Watakushi Shosetsu de la fin du 19e siècle, toutes sortes d'éléments qui venaient de la grande tradition littéraire de l'écriture autobiographique japonaise, qui remonte à l'époque de Seishonagon, à l'époque de Murasaki Shikibu, et puis plus tard, on trouve ça également du côté des poètes comme Basho ou comme Issa, dont je parle dans Sarinagara. Donc il y a cet objet très particulier qui s'est constitué dans la littérature japonaise du XXe siècle, qui paraît imité de la littérature autobiographique occidentale, mais qui en réalité est très fortement imprégné par une tradition qui est une tradition proprement japonaise et classique. Avec, et je reviens à votre question plus directement, avec cette spécificité que du côté japonais, on ne croit pas au moi. Enfin, un des grands thèmes de la pensée japonaise, c'est celui de l'impermanence des phénomènes, de l'illusion du moi, etc. Et donc, il y a une sorte de conflagration très étonnante dans ces textes japonais entre une forme qui est issue d'une tradition occidentale qui affirme la prééminence du moi, d'un côté, et de l'autre côté, donc des éléments qui viennent d'une culture qui, au contraire, nie jusqu'à l'existence même du moi et présente celui-ci comme une illusion qui est vouée à disparaître, à se dissoudre. Donc ce que j'ai essayé de faire un peu dans Sarinagara, c'est d'importer dans le champ de la littérature française la forme du Watakushi Shosetsu, en apparence un texte autobiographique, mais en réalité un texte autobiographique qui vise à faire se dissoudre l'illusion du moi pour que reste l'extase un peu magnifique et mélancolique aussi de la conscience devant le grand rien du monde, si on veut.
Mais est-ce qu'on peut retrouver cette même méthode dans un texte comme Le Nouvel Amour, par exemple, ou dans votre dernier roman ? Parce qu'à chaque fois, il y a un héros qui est vous. Mmh. À chaque fois, on va retrouver la mort de la petite fille.
Oui.
Et néanmoins, on est dans un univers romanesque. Donc, est-ce que ça veut dire que ce jeu de Philippe Forest se dissout, pour employer vos termes, dans le grand tout ?
Ben, je crois, en tout cas c'est la perception que moi j'en ai, parce que je trouve que dans tous mes livres, bien que j'en sois d'une certaine manière le personnage principal, il me semble, je peux me tromper, que je parle assez peu de moi-même et que je suis plutôt comme un témoin que véritablement comme un acteur.
Témoin de vous.
Témoin du monde.
Qui s'appelle, oui, mais témoin de quelqu'un qui s'appelle Je quand même, qui s'appelle Philippe,
oui,
et qui a une petite fille qui est morte quand elle avait 4 ans.
Oui, oui, bien
donc
sûr.
Donc c'est quand même la personne que j'ai en face de moi.
Oui, mais cette personne-là, elle est tout entière tournée vers une expérience qui nous révèle à quel point est vaine toute prétention à l'existence individuelle. Je crois que ce vers quoi se dirige l'enfant éternel, c'est cette vision mélancolique d'un monde déserté par l'être le plus cher. Il y a quelque chose du même ordre dans l'expérience érotique, dans Le Nouvel Amour. Et puis, dans Le Siècle des Nuages, justement, la vision presque ultime du livre, avec cette description d'une vingtaine de pages que je propose du ciel vide, c'est aussi pour moi le spectacle dont doit témoigner le romancier. Alors bien sûr, on le fait à partir de son expérience autobiographique, on le fait à partir de son moi. Mais ce qui compte, c'est moins le moi que le spectacle vers lequel il se tourne.
Parce que ce moi se dissout. Et il va se reformer dans le prochain livre.
Oui.
À chaque fois. Parce que, admettons effectivement qu'à la fin de Nouvel Amour, à la fin de vos textes et votre fille, bon, le moi prend cette espèce d'ampleur impersonnelle. On entre dans l'impersonnel.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Et,
oui.
Et puis on revient au jeu quand même.
Bah oui,
dès que vous prenez la plume pour le suivant.
Ce qui prouve que l'expérience échoue et c'est pourquoi elle doit recommencer.
J'ai peut-être envie qu'elle échoue alors. Pour continuer à être écrivain.
Je sais pas, non, je pense que je souhaiterais vraiment réussir, mais comme je n'y parviens pas, je suis condamné à écrire encore quelques livres.
On est au bord de la mystique dans cette fusion dans le grand tout. La fusion,
oui,
du moi dans le grand tout.
Ah, moi, je suis un grand lecteur, sinon des mystiques, du moins de certains écrivains qui en sont les héritiers, comme Georges Bataille, par exemple. Hein. Moi, je trouve
que vous citez souvent, oui, hein, oui, dans vos ouvrages. Oui.
Il me semble qu'il y a chez Bataille, justement, ce qu'il appelle littéralement l'expérience intérieure, et qui est justement une expérience où le jeu est présent, mais dans la perspective de se dissoudre. Le but, c'est l'impersonnel, en quelque sorte. Et l'impersonnel est donc l'universel.
Ce n'est pas cérébral. C'est vraiment le désir d'une véritable expérience existentielle.
Je crois, oui, pour autant que je puisse juger de ma propre sincérité, oui. C'est ce que je ressens, oui. Bien sûr, la pensée doit jouer un rôle, mais jusqu'à un certain point, elle conduit à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la poésie, d'où la description du ciel et de ses nuages.
Dernier livre, oui. J'en reviens quand même, avant que nous abordions votre dernier livre, à la question autobiographique. Vous dites qu'il y aurait trois formes d'autobiographie. Bon, pourquoi pas, monsieur le professeur? Pourquoi pas?
J'ai remarqué que les lecteurs parfois aimaient bien les systématisations, les schémas, les néologismes.
Voilà. On aime bien cela aussi dans l'université française. Donc il y aurait l'égo-littérature, il y aurait l'autofiction, donc ce qui se pratique beaucoup aujourd'hui. Et il y aurait, et là vous seriez plutôt favorable pour la troisième possibilité, l'hétérographie.
Voilà.
Alors un mot sur chacune, monsieur le professeur.
L'égo-littérature, je dirais que c'est le degré zéro de la littérature autobiographique. C'est la littérature dans laquelle on expose son moi. C'est la littérature de témoignage dans ce qu'elle a de plus immédiat.
Ce n'est pas le cas de Rousseau, de Saint-Augustin.
Alors, je crois que les grands écrivains, les grands autobiographes sont simultanément sur les trois registres.
Ah, voilà.
Et je pense que
si Rousseau avait été mauvais, il aurait été de l'égo-littérature.
Voilà.
Mais comme il est bon...
Il est aussi un hétérographe. Et Saint-Augustin et tous les autres.
Ah,
oui, encore plus, c'est vrai. Oui. Et puis, l'autofiction, c'est... L'autofiction, c'est l'autobiographie quand elle prend conscience d'être roman. Et donc, c'est quand l'écrivain joue un jeu entre vérité et fiction, qu'il se met lui-même en scène sous forme de personnage, en assumant cette dimension de mentir vrai, comme disait Aragon.
Alors là, on n'est pas loin de Forrest, là. Et pourtant, c'est pas ça.
Pour moi, mais là encore, je plaide pour ma chapelle. Donc, c'est au lecteur de dire si les théories que j'avance s'appliquent ou non aux œuvres que je produis. Mais pour moi, l'horizon ultime de tout ça, c'est effectivement l'hétérographie. C'est-à-dire, c'est un terme que j'emploie à bataille, c'est-à-dire une littérature qui va témoigner de l'impossible et qui va donc conduire le jeu jusqu'au point de sa dissolution. Et on trouve ça chez Rousseau, par exemple. Les rêveries du promeneur solitaire. C'est ça, en quelque sorte, quand Rousseau est sur sa barque ou quand il est blessé et qu'il regarde le ciel étoilé au-dessus de lui. Là, à ce moment-là, Rousseau oublie Rousseau, en quelque sorte, et il conduit son œuvre jusqu'à une vision poétique à l'intérieur de laquelle il se perd. Pour moi, la littérature, ultimement, elle doit conduire à ce genre de révélation, si on veut.
Donc il y aurait, si je vous ai bien suivi, hétérographie. Si, effectivement, l'ensemble du monde est convié, si le « moi » finit par n'être pas grand-chose par rapport aux forces immenses de la nature, et aussi s'il y a mise à distance. C'est-à-dire que si on n'est pas enfermé à l'intérieur de ce moi.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Mais pas simplement ouverture vers le ciel, mais ouverture aussi comme s'il y avait un regard qui regarde ce moi.
Ce regard, c'est celui qui se développe pour moi du côté de l'autofiction. L'autofiction, elle est le lieu de ce dédoublement. On est à la fois celui qui écrit et celui qui est écrit. On est à la fois l'auteur et le personnage.
Mais ça n'est pas suffisant.
À mon sens, non. Oui. À mon sens, l'expérience ultime, c'est celle de l'impossible. On peut appeler ça comme ça. C'est une expérience d'ordre extatique, en fait.
Alors, une dernière question, mais ne la prenez pas mal. Vous savez, on a compris l'admiration que je porte à vos ouvrages. Mais l'histoire de la mort de cette fillette, donc depuis ce grand choc qui a fait de vous un écrivain, comme vous nous l'avez avoué tout à l'heure, on la retrouve dans chacun de vos livres. Est-ce une nécessité en quelque sorte psychique pour vous d'être obligé à chaque fois de revenir sur ce deuil? Ou est-ce que ça devient petit à petit un procédé littéraire?
J'espère que ça n'est pas un procédé littéraire, et en tout cas je peux vous garantir que c'est d'abord une nécessité psychique, c'est-à-dire la mort d'un enfant, c'est l'illustration absolue d'une confrontation brutale avec le non-sens, avec ce qu'on appelait autrefois l'absurde, qu'on peut appeler le mal aussi bien, et c'est une question, pour moi qui n'ai pas la foi, c'est une question qui reste absolument sans réponse, et qui vaut pour toutes les autres questions du même ordre. Je pense que J'attribue pas un privilège particulier à cette expérience. Il y en a d'autres qui peuvent être aussi intenses, aussi destructrices, aussi pleines de sens ou plutôt de non-sens. En tout cas, dans ma biographie, c'est cette expérience-là qui a été première. Et cette question à laquelle je me suis trouvé confronté, eh bien, elle reste et elle restera, j'en suis sûr, jusqu'au bout sans réponse. Et donc, c'est dans cet espace de déchirure que vient se loger chaque fois chez moi le désir de raconter des histoires qui me reconduisent inévitablement jusqu'à cette aporie, on peut appeler ça comme ça.
Sans avoir peur de lasser le lecteur. Parce que si c'est vraiment pour vous guérir vous-même, pourquoi, en tant qu'artiste, l'imposer au lecteur ?
Bah parce que d'abord, j'impose rien à personne, donc il y a beaucoup de gens...
On n'est pas obligé de vous lire, mais à partir du moment où on vous lit, on va retomber sur ce grand choc.
Oui.
Donc l'artiste en vous a-t-il besoin de cela ? Là, je parle de l'artiste, pas seulement de l'homme blessé qui a besoin d'en reparler.
Mais pour moi, l'artiste ne se dissocie pas de l'homme. Je crois fondamentalement, je crois que c'est Artaud qui disait ça, que toute littérature ne peut pas être détachée de la vie. Hein. Et donc, pour moi, les deux projets sont si intimement tressés l'un à l'autre que ça n'aurait aucun sens de les dissocier. Mais pour répondre plus directement à votre question, je crois que cette question, ça n'est pas seulement ma question. Mais c'est la question de tous les hommes, et c'est donc la question de tous les lecteurs. Libre au lecteur de se détourner de cette question s'il estime ne pas avoir le courage ou le désir de l'affronter. Mais j'ai envie de dire, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure, que de toute manière, cette question, elle se posera à chacun d'entre nous à un moment ou à un autre, plus ou moins tardivement.
Pas forcément sous cette forme, sous la forme de l'absurde et du mal.
Voilà.
Que chacun peut connaître.
Et je crois que c'est le grand thème de la littérature, le mal.
On va le retrouver dans Le siècle des nuages, juste après cette chanson.